5. Allez-y, madame. Mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous comptez les deux registres ?
François Mitterrand, on fait dans les épingles ?
Non.
Oui, mais pour les recompter après.
Ça, on
laisse un et on retrouve l'autre. D'accord.
Ça fait 6-7. Il est 20h, le scrutin est clos.
Et pour ce petit précis, nous recevons en direct des studios de Radio France à Grenoble, Olivier Hill. Bonjour Olivier Hill.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble. Votre dernier livre s'intitule « Une histoire de la représentation, Louis-Marie Boisredon et le Paris 1848 aux éditions du Croquant ». Mais vous avez souhaité revenir pour ce petit précis sur des questions vestimentaires à propos de la garde-robe de François Fillon. Il a dit que ce n'était pas interdit de se faire offrir des costumes, comme il l'a fait, même si hier, dans son entretien à France 2, il a changé de son fusil d'épaule en expliquant qu'il avait rendu ses costumes. Et cette déclaration, selon vous, permet de revenir sur une histoire bien plus ancienne. Est-ce bien décent de représenter la nation en s'habillant du fil de distinction qui peuvent offenser Olivier Hill ?
La démocratie électorale veille depuis longtemps sur ces histoires de chiffons. C'est pourquoi, depuis la Révolution française, elle s'est instituée législateur des bas, des souliers, des pantalons, des vestons. Et ce qu'elle combattit le plus, c'est évidemment ce qu'on a coutume d'appeler les distinctions d'intérêt. C'est-à-dire ces étoffes chamarrées qui asservissent à la vanité, quand ce n'est pas aux puissances de l'argent. D'où l'invention du vêtement politique, au nom de la dignité du peuple. Alors on connaît le vêtement des chefs de l'État républicain. Longtemps, ce fut un frac assez austère, et à la célèbre queue de pie lui était associé un lourd cordon en sautoir, celui de grand maître de la Légion d'honneur. Des hardes d'État qui rappelaient aux locataires de l'Élysée le poids de son sacerdoce. Les photographies officielles en portent témoignage, au moins de Napoléon III à Georges Pompidou. Depuis, Valéry Giscard d'Estaing a succédé un simple costume bourgeois avec au revers l'insigne de grand croix. Pour les parlementaires, le législateur imagina, hier, d'imposer le port d'un costume de sa composition. Il fallait évidemment faire oublier les scandaleuses surenchères des états généraux. Là, chaque ordre se distinguait par sa tenue. La noblesse par son parement d'étoffe d'or, son chapeau à plumes blanches. Le haut clergé par ses soutanes violettes ou ses bonnets carrés. Des extravagances devant lesquelles le tiers-état se sentit humilié avec sa simple veste de drap noir. Le directoire mit fin à ces querelles en prenant pour tous une tunique blanche, un manteau écarlate, une toque bleue. Alors posons la question. Peut-on faire sérieux sans emporter le costume ? Il faut croire que cela reste impossible. Étranges lois somptuaires. Elles font qu'une sorte de dress code, à l'inverse, fait encore ricaner sur les tenues les plus ordinaires. Rappelons-nous, le 25 février dernier, le candidat ouvrier du MPA a dû braver le fou rire des animateurs d'une télévision du service public. Partie d'une question sur les licenciements, cette sinistre rigolade suscita un malaise dans la presse nationale comme sur les réseaux sociaux. Lui, salarié chez Ford, était habillé en jeans, chemise ouverte, avec sur son polo un t-shirt où l'on pouvait lire « Résister, c'est exister ». Au-delà des railleries les plus faciles, « Tu parles au futur président de la République », s'esclaffera l'un de ses chroniqueurs. L'échange buta sur cette grave question. De la cravate ou du t-shirt, quel est l'article le plus légitime ? Pour l'historien, un tel épisode rappelle un débat lancinant, celui de la parure républicaine. Auteur d'un célèbre discours sur ce sujet en 1799, l'avocat et éditeur Jean-François Saubry enjoignait de rompre avec l'ancien régime vestimentaire. Il voulait faire marcher la propreté, l'élégance, le goût avant la richesse, car celle-ci, écrit-il, insulte les citoyens. Alors n'en déplaise à Saubry, la vanité vestimentaire n'a pas disparu. Au contraire, le régime parlementaire, en ramenant à une égalité de fonction, à exacerber les petites différences de celles par lesquelles la politique professionnelle reste associée en France à des manières sociales. Des manières qui ne se partagent guère. Entre des Davison à 80 euros, des Weston à 800 ou des Mecariello à 8000, un œil exercé sera parfaitement distingué comment nos élus sont chaussés. Les sociologues parlent d'une exis corporelle, c'est-à-dire un ensemble d'habitudes propres à une culture ou à un groupe social. Arrivant au Palais Bourbon en 1945, les femmes ont dû lutter contre cette étiquette, restée longtemps toute masculine. Mais la bataille, ne l'oublions pas, fut tout aussi vive sur le plan social. Et j'en veux pour preuve les peurs, les fantasmes que la blouse ouvrière a pu inspirer en matière de représentation politique. Que faut-il pour se présenter à l'élection présidentielle ? Légalement, avoir 18 ans, 500 parrainages, être français, jouir de ses droits civiques. Mais en réalité, il est d'autres conditions, plus insidieuses. Ce plafond de verre, le creusois Martin Nadeau, fils de cultivateur et ouvrier maçon, s'y est heurté au lendemain de son élection en mai 1849. Son habit de campagne, il le raconte dans ses mémoires, il l'avait acheté lui dans une simple friperie du boulevard du Temple. Une belle blouse à collet bleu et rouge, serrée par une ceinture tricolore qui était la grande mode du temps. C'est avec cette tenue qu'il fit ses tournées électorales. C'est dans cette tenue qu'il fut moqué, lui, comme d'autres 48ards, jusque dans l'Assemblée nationale. Autre exemple, Christophe Thivrier. Il a fait de son habit un drapeau. En octobre 1889, ce député socialiste de Montluçon publia une lettre ouverte. « Mes électeurs ne veulent pas que je me déguise pour la séance d'ouverture. Ils m'ont donné mandat d'y aller endimanché comme je suis ordinairement. La blouse par-dessus le paletot. » Et un engagement qui lui vaudra des altercations, notamment avec les huissiers de la Chambre des députés. C'est à leur rencontre qu'il lancera. Quand l'abbé Lémire posera sa soutane, quand le général de Galifet quittera son uniforme, je poserai ma blouse d'ouvrier. Une façon de rappeler que sous la Convention, toutes les tenues étaient acceptées. Des sabots bretons au foulard qui couvrait la tête de Marat. Les habits des représentants doivent-ils être ceux, d'un métier, d'une condition, d'un département? Pour certains, ce serait encourager le mandat impératif. Pour d'autres, ce serait au contraire se rapprocher des électeurs eux-mêmes. Évidemment, le risque, c'est de contrevenir au sentiment d'égalité. Députés et sénateurs sont censés représenter la France dans son ensemble, non pas une fraction d'entre elles. C'est pourquoi les deux premières républiques avaient fixé un costume parlementaire. Tricolore, artistique, mais unique. Une volonté qui depuis a fait place à la forme bourgeoise du costume, généralement sombre, avec cravate assortie, et pour souliers des richelieux en cuir. En Angleterre, à la Chambre des Lords, chaque pair porte encore, outre une perruque, une large robe de laine rouge, doublée de taffetas, bordée d'hermine, et une toque de velours. Costume haut en couleur, mais puis, paradoxalement, efface les différences de rang et de condition. Car en France, depuis la disparition du frac bleu aux feuilles de chêne, fleurs de lys, de la Restauration, chacun s'habille à sa convenance. Oui, mais avec convenance, c'est-à-dire, au fond, selon l'usage, du millier des classes moyennes dans lequel se recrute la majorité des élus. Pour le XIXe siècle, rappelons-le, là où est la fonction, là est la responsabilité. Et celle-ci, cette responsabilité, doit se fixer dans des dehors sobres, décents. Une parlementarisation du politique dont les ouvriers, comme les paysans, se sont sentis très tôt exclus. Pourtant, aucun texte écrit ne fixe une tenue spécifique dans les allées du pouvoir. Il n'empêche, les présidents des deux assemblées, Sénat, Chambre des représentants ou Assemblée nationale, continuent d'exiger une tenue correcte. Alors, tenue correcte, pour les hommes, le mot désigne la veste et la cravate. Pour les femmes, le tailleur. Un schéma qui tranche avec le Parlement européen, où la liberté vestimentaire est entière. Pour ceux qui douteraient de l'existence de cette étiquette, qu'il suffise d'évoquer la menace qu'a semblé faire courir le jeans porté par Cécile Duflot, nouvelle ministre du Logement, au Conseil des ministres, le 12 mai 2012. Ou encore, en juin 1981, le fameux col Mao. Il cachait la cravate du ministre de la Culture, Jacques Lang. Un jeans et un col qui leur valurent à tous les deux la réprobation des gardiens de la tradition. Comment continuer à en douter? La présentation de soi est en France indissociable de la représentation politique. Et même de la représentativité sociale. Faut-il rappeler le chiffre des députés, qui en 2012 sont issus du monde ouvrier? Moins de 0,2%. Quand en dehors de l'hémicycle, ce groupe social forme, d'après les chiffres de l'INSEE, plus de 21% de la population active. D'où cet argument, qui ne cesse de courir depuis la naissance du parlementarisme. Les ouvriers ne sont pas représentés. Et avec cet argument, une attente, exprimée depuis la fin du XIXe siècle, que la figure de l'ouvrier soit visible, reconnue dans la politique comme dans la société. Redevenue lettre morte, dans notre Ve République finissante, cette attente explique une part des déconvenues des classes populaires. Si l'abstention est aujourd'hui, et de loin, le premier parti chez les ouvriers, le monde populaire en général hante, tel un spectre, une république électorale qui n'en finit plus de nourrir ses sarcasmes. L'habit fait l'élu, comme hier il faisait le moine. Triste constat,